Charles-Louis-Philippe. La mort du chien. Ce ne fut certes pas en cherchant un livre que Paul découvrit la carabine derrière la bibliothèque. Il se promenait dans la maison pendant que son père n'y était pas. Il voulait se livrer à des découvertes. Il aboutit à cette découverte-là. Il risquait d'ailleurs de trouver encore des livres. Depuis longtemps, il savait où était la boîte de cartouches. Elle était sur la cheminée. Plus d'une fois même, il avait eu envie de la jeter dans le feu pour voir ce qui arriverait. Mais qu'allait-il faire avec la carabine? Il aurait pu faire une chose toute naturelle. Il aurait pu s'amuser dans le jardin à tuer des oiseaux. Mais la cuisinière ou le domestique l'eussent aperçu et dénoncé à papa, qui l'eût enfermé à clé dans sa chambre pendant le reste de la journée pour qu'il fît ses devoirs et apprît ses leçons. Paul s'en alla dans la remise. Le premier coup de carabine qu'il tira fut dans la capote de la voiture. Il fit un petit trou qui ne se voyait même pas. Alors, il tira un second coup dans le mur. Un gros morceau de crépi tomba. Paul accomplit ensuite l'action pour laquelle il valait la peine qu'on possédât une carabine. Il ouvrit la porte de la remise. C'est dans la rue seulement, dans la vie, qu'un bon tireur peut exercer son adresse. Il y aurait bien eu le coq du clocher de l'église, ou la Sainte Vierge qui était placée dans une niche sur la place, qu'on appelait le carré de la Bonne Dame. Mais l'église était loin, et la place tout auprès de l'église. Heureusement, le père Zidore, le marchand de peau de lapin, apparut. Il portait un vieux chapeau de forme et il achetait des peaux de lapin. L'idée de Paul fut excellente, ne pas se montrer et traverser le chapeau du père Zidore d'un coup de carabine. Ce que le bonhomme allait crier en voyant qu'une balle avait passé si près de sa tête. Mais Paul n'eut pas de chance. Au moment où il le mettait en joue, le père Zidore entra dans une maison. Il ne tarda pas, du reste, à être remplacé dans la rue par le chien de monsieur Olivier. Ce chien-là était une drôle de bête. Ses maîtres avaient essayé d'en faire toutes sortes de choses, un chien de chasse ou un chien de garde. Il n'avait jamais consenti à se laisser faire. Il aimait mieux courir dans les rues de la ville et être partout là où peut être un chien. Les cantonniers lui en voulaient à mort parce qu'il avait l'air de les surveiller lorsqu'ils enlevaient les tas de balayures. Tout un jour, il trottait. Les personnes qui n'auraient pas su que c'était un chien auraient pu le prendre pour un petit cheval. Il dressait ses deux oreilles. Le chien de monsieur Olivier aurait bien mieux fait de s'arrêter pour une fois, afin que Paul pût le viser à son aise. Paul voulait simplement lui traverser l'oreille et l'entendre crier. Il n'aurait pas su d'où venait le coup et se serait sauvé à travers champ. L'imprudent animal. C'était pourtant son oreille que Paul croyait tenir au bout de sa carabine lorsqu'il tira. Il y eut de sa faute. Peut-être donna-t-il un coup de tête. Les bêtes n'imaginent pas bien ce qui leur arrive. Le chien de monsieur Olivier regardait du côté de la haie lorsqu'il reçut le plomb. Il pensa sans doute que c'était dans la haie qu'il se passait quelque chose car il y alla tout droit. Il descendit le fossé et, ne trouvant pas ce qu'il cherchait, jeta pendant quelques secondes des coups d'œil autour de lui. Ses pattes fléchirent pendant qu'il cherchait encore. Paul eut de l'avance à fermer la porte de la remise et à remettre en place carabine et cartouches. Il monta droit à sa chambre. La leçon qu'il avait à apprendre était une leçon de géographie sur l'Amérique. Il lui consacra tout le temps nécessaire. Comme il avait la tête dure, il assujettit ses poings de chaque côté de son front. Il fallut même, lorsqu'arriva l'heure du déjeuner, son père qui était médecin ayant terminé sa tournée du matin, il fallut qu'on appelât Paul pour qu'il vînt manger. Il descendit avec ostentation son livre à la main, et du plus loin qu'il aperçut son père. « Papa, veux-tu que je te récite ma leçon ?» Le père fut tellement surpris qu'il ne prit pas le temps de se mettre à table. Paul savait sa leçon sans qu'un seul mot lui en manquât. Le père fut obligé de lui dire « Tu vois, Paul, tu n'es pas plus bête qu'un autre. Si tu n'apprends pas mieux tes leçons, c'est parce que tu ne veux pas. Écoute ce que je vais te dire. Si pendant un mois, tu es studieux comme aujourd'hui, je t'achète une bicyclette pour te promener pendant les vacances. » Vers midi, la mère Blaise, qui avait une chèvre, la détacha, la sortit de l'étable, et, ne pouvant aller bien loin parce qu'elle était très vieille, conduisit sa chèvre dans la petite rue, en face de la remise de M. Pélissier, le médecin. La chèvre broutrait à son aise les feuilles de la haie, et la mère Blaise s'assoirait à l'ombre sur le bord du fossé. La mère Blaise tricotait des bas. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi tricotait-elle des bas? Elle en avait dans son armoire plus qu'elle n'en porterait jamais. Elle s'amusait à dépenser de la laine, parce qu'on est bête quand on est vieux. Tous les jours, elle se répétait la même chose et se gâtait le plaisir que l'on goûte à tricoter. Sa chèvre était bien plus fine qu'elle. Si elle se donnait du mal, c'était pour manger. Les bêtes sont maladroites tout de même avec leurs quatre pattes. Il est vrai qu'elles peuvent mieux grimper. Mais ensuite, n'ayant pas de bras, elles doivent se servir de leur tête comme nous de nos mains. Il y avait une chose que la mère Blaise n'avait jamais pu comprendre. C'est que les chèvres ne se piquent pas le dedans de la bouche en mordant dans les épines. À un moment donné, la chèvre sembla posséder une lueur de bon sens. Au lieu de se cabrer, de tendre le cou et de se donner une peine bien inutile pour attraper des feuilles, elle resta tranquille dans le fossé et mangea l'herbe qui avait poussé sur une grosse pierre noire que l'on apercevait. Elle avait raison, l'herbe est encore plus tendre que les feuilles. La mère Blaise partageait si bien cet avis qu'elle se leva pour encourager sa chèvre. Ce qu'elle fut étonnée, si elle ne dit rien, c'est parce qu'il n'y avait personne pour l'entendre. La chèvre était en train de brouter un chien crevé. Il ne faut jamais quitter les bêtes des yeux. Elle serait capable de s'empoisonner avec de la pourriture. On dit que les chèvres ne mangent que de l'herbe. C'est tout simplement parce qu'on ne leur donne pas de viande. Mais la mère Blaise était en colère contre sa chèvre. Elle allait lui apprendre à manger du chien. Elle lui lança un bon coup de pied dans les côtes et l'entraîna plus loin. Comme elle rencontrait un passant sur sa route, elle dit pourtant « Écoutez donc, il y a un chien crevé dans le fossé. » On sut bien vite que c'était le chien de M. Olivier. On prévint son domestique, qui était en train de causer avec la domestique de M. Fauvard, le notaire, qu'il devait épouser. Il la quitta, sans même lui dire au revoir, et lui prouva qu'il aimait mieux son chien que sa future femme. Le chien était bien dans le fossé et ne remuait plus. Le domestique n'eut pas le cœur de regarder tout de suite s'il était mort. Il le saisit dans ses bras comme un blessé. La tête de la bête s'appuyait sur l'épaule de l'homme. En se penchant un peu, celui-ci lui touchait la joue. Le chien se laissait faire comme un enfant. En arrivant chez son maître, ce fut tout juste si le domestique ne le posa pas sur le lit. Il le posa sur la table. Puis il fit ce que jamais ne font les domestiques. Il appela Monsieur Olivier. Ce fut celui-ci qui se dérangea. Alors, on vit que le chien était bien mort. Le sang lui sortait de la tête par un trou. Monsieur Olivier, qui était un petit homme tout rond, tout réjoui, en avait les larmes aux yeux. Mais le domestique ne se laissa pas aller à l'émotion. Il se campa d'abord et regarda tout autour de lui dans la chambre. Puis il alla à la porte, l'ouvrit et sortit dans la rue. Il respira avec attention l'air aux quatre coins de l'horizon. Ce fut à l'est qu'il lui sembla sentir l'odeur du crime. Il ne dit rien pendant un bon moment, pour être plus sûr de ne pas se tromper. Puis, après avoir examiné, mesuré, comparé, il n'eut plus aucun doute et s'écria : « C'est Paul Pélissier qui a fait le coup. » Il usa des moyens que lui accordait la loi. Il en usa entièrement. Et un quart d'heure plus tard, accompagné de Graventou le brigadier et de Bello le gendarme, chacun ayant le sabre au côté et le revolver en sautoir, il entrait chez Monsieur Pélissier. Paul, auprès de son père, dans le cabinet de consultation, sur une petite table, avec ferveur, avec une sorte de remords à cause du temps passé loin de l'étude, apprenait si docilement sa leçon d'histoire que Monsieur Pélissier fut saisi par une violente colère. « Alors, tout ce qui se fait de mal dans le pays, c'est mon fils qui le fait. » Les gendarmes, déjà, partaient comme ils étaient venus, et le domestique aussi, ayant appris comment parfois on se trompe dans la vie, car Monsieur Pélissier avait crié très fort. Tout était fini. Ils ouvraient déjà la porte. Ce fut un sentiment comparable au vertige qui poussa Paul. On ne lui demandait plus rien. La justice et la loi, à sa face, proclamaient son innocence. Il eut peur de la justice et de la loi, qui, lorsqu'elles nous quittent, s'en vont dans une région mystérieuse que nous ne connaissons pas. Peut-être le guetterait-elle au passage. Il ne put pas les laisser partir, sous peine d'ignorer ce qui maintenant dans sa vie entière allait lui arriver. On peut dire qu'il se jeta dedans. Le père dut rappeler les gendarmes, car Paul avouait tout. Monsieur Pélissier dit « Emmenez-le en prison. » Paul traversa la ville. Les deux gendarmes le tenaient chacun par un bras pour mieux montrer à tout le monde qu'il l'emmenait avec eux. On le mit au violon. Pendant un moment, il sut ce qu'il avait à faire. Il donna des coups de pied dans la porte pour la démolir. Il avait appris sa leçon de géographie sur l'Amérique. Il se sauverait dans la campagne à toutes jambes, traverserait à la nage l'océan Atlantique, et une fois en Amérique, s'engagerait comme mousse à bord d'un bateau. Quand il fut là et qu'il vit que la porte résistait, il posa son paletot, monta sur la planche et accrocha ses bretelles à un clou. Il voulait se pendre. Il l'eût fait si les gendarmes n'étaient pas entrés. Graventou, le brigadier, dut lui donner une série de gifles et de coups de pied dans le derrière. Puis, il le conduisit à son père. L'année était trop avancée pour qu'on l'envoyât au lycée. Il fut mis en pension chez le maître d'école, avec prière à celui-ci de ne lui rien passer et de ne pas même le laisser sortir le jeudi et le dimanche.